19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, c'est parti pour les informés jusqu'à 20h, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. On remet ça, allez c'est parti, vous le savez, au sommaire de cette émission, jusqu'à 20h nous allons commenter, analyser, décrypter l'actualité, mais pas que, mais puisque vous le savez, plus que jamais vous êtes prioritaire au standard, Solal vous accueille avec grand plaisir au 01 53 48 3000. On reviendra sur les risques de tensions en France, que je fais référence évidemment au conflit israélo-palestinien. Nous reviendrons aussi longuement sur, puisque ça a été beaucoup débattu, sur le déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, parce que ça continue de débattre et ça fait débat, donc on en parlera. L'instrumentalisation, vous savez, des réseaux sociaux. Je fais référence évidemment, bien sûr, au conflit israélo-palestinien. Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ça a des répercussions? Est-ce que ça joue évidemment auprès de cette jeunesse française, auprès des quartiers populaires? On en parlera. La radicalisation, vous le savez, c'est une lutte, hein. La menace terroriste en France, elle est là, elle est accrue, mais surtout, est-ce qu'on peut parler de radicalisation de plus en plus pour la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents dans toute forme? On en parlera ici même dans les informés avec trois débatteurs influenceurs. Vous le savez, un journaliste et un élu et puis un porte-parole du MDC qui seront là, qui commenteront l'actualité et surtout qui confronteront leur point de vue. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais surtout les amis auditeurs, en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Allez, c'est parti avec Farid Aïd. Ça faisait longtemps, hein, Farid Aïd.
Oui,
bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez dans votre portable, là? Qu'est-ce qui se passe?
Bonjour Adil, bonjour à tous les éditeurs.
Comment ça va bien?
Je vais regarder rapidement. Ça va bien, ça va. J'espère que vous allez toutes et tous bien.
Vous êtes venu accompagner.
Exactement. Ouais. Voilà, je suis venu avec ma collaboratrice.
Ouais. Anna. Bonjour Anna, comment ça va? La collaboratrice. Tu as dit bonjour dans
le micro. Ça sent un peu fictif.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va Anna? Ça va?
Oui.
Oh, la timide Anna. La timide, elle est toute rouge. Tout va bien? T'es contente d'être à la radio?
Tout.
C'est ça?
Pas.
T'es pas contente d'être à la radio? Je suis quand même, un peu quand même. C'est un petit peu. Elle est timide, on va pas l'intimider. Jérôme Bonnet, journaliste. Comment ça va, Jérôme Bonnet?
Ça va très bien, je te remercie. Cette scène est très touchante. Ça me rappelle, quelquefois, j'ai amené ma fille à RT France, qui avait à peu près cet âge-là à l'époque, et qui était très intimidée aussi.
C'est ça, ils sont
rigolo.
Intimidés par le micro.
Mais elle est belle comme le jour, hein. Bah on est bien content de l'avoir avec nous.
Ouais, c'est ça, que Dieu la préserve, ouais. N'est-ce pas? Merci. Allez, on attend Gamal Abina aussi, qui a un léger retard. Il va arriver. Donc, c'est le porte-parole du MDC. Messieurs, tout de suite, je voudrais, vous savez quoi, revenir sur ce sujet. Alors, parce que de plus en plus on parle des otages, vous le savez, les familles continuent de réclamer évidemment, demandent, hein, voilà, ils demandent que la main soit tendue. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose clairement la question, on doit continuer de taper sur le Qatar? Le Qatar qui lui-même continue de négocier, d'accord, avec le Hamas pour lâcher les otages. Je crois qu'on parle en ce moment même de 33 et 36. Je vous pose la question parce que c'est vrai que régulièrement, depuis plusieurs jours, on n'arrête pas de cogner sur le Qatar. Faut-il le faire ou arrêter ou stopper? Farid Aïd.
D'abord, si tu me permets, Adil, d'abord je voudrais dire que je souhaite que tous nos otages français et même internationaux puissent rentrer chez eux, dans leur famille, parce que ce sont des civils. Et qu'ils n'ont rien à faire dans cette guerre, premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que je partage aussi la douleur des Juifs qui ont été massacrés, des civils, des femmes et des enfants, comme aussi des Gazaouis aussi qui sont aujourd'hui tués, des femmes et des enfants, pour moi, ces deux pays. Parce que pour moi, et c'est ce que dit la résolution des Nations Unies en 47, c'est qu'il doit y avoir deux États. Deux États qui doivent vivre côte à côte. Un État israélien en paix et un État palestinien en paix. Et je voulais dire ça, si tu me permets, en préambule, parce que c'est important.
C'est l'élu qui parle.
Voilà. Pour nos auditrices et nos auditeurs,
je souscris à chaque mot, cela dit.
L'élu de Pierrefitte est député suppléant, d'ailleurs.
Voilà. Et qu'on est pour la paix, et on est tous pour la paix, et on souhaite, bien évidemment, et je souhaite un cessez-le-feu par rapport à ce qui se passe à Gaza, parce que c'est intolérable ce qui se passe là, en ce moment, à Gaza. Il faut arrêter ces massacres, premièrement. Deuxièmement, ça arrange toujours Adil de taper sur quelqu'un. Et là, on tape sur le Qatar. Mmh. Mais on était bien en France, nous, on était bien d'accueillir content d'accueillir le Qatar quand il venait déverser ces millions, ces milliards pour le club de foot du PSG, pour les investissements, pour travailler. Tu te rappelles aussi, Adil, qu'à un moment donné, il voulait aussi injecter de l'argent dans les banlieues. Tu te rappelles ?
Je m'en rappelle très bien. Voilà. C'est longtemps d'ailleurs, ils ont été effectivement. Exactement. On avait pointé du toit le Qatar comme quoi il finançait les quartiers populaires.
Exactement. Derrière ça, il y avait toujours l'idée que le Qatar finance, vous dites c'est les musulmans qui financent, c'est l'islamisme qui finance, etc. Ça veut dire que soit c'est un État et il faut qu'on respecte l'État, ou soit c'est pas un État et on le dénonce. C'est un État et aujourd'hui on est quand même content, même s'il y a des voix discordantes, qu'on est content qu'il puisse être là pour négocier, en tout cas négocier aujourd'hui.
On va pas taper sur celui qui négocie pour toi.
Qui négocie pour nous et qui négocie pour faire en sorte que nos otages reviennent sains et saufs. Et ça c'est important. Après qu'on puisse parler de ce que fait le Qatar, qui finance ou pas le Hamas, etc. Je voulais vous dire et je voulais dire à tous nos auditeurs et auditrices, il y a aussi Israël qui a financé aussi le Hamas, quand ça les arrangeait. Ça veut dire que c'est à géométrie variable et c'est pour ça que je pense que sur ces questions-là, il faut être factuel, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans essayer de créer la polémique, mais en disant qu'aujourd'hui, on a besoin du Qatar pour faire en sorte que les otages puissent rentrer chez eux.
Jérôme Bonnet, effectivement.
Alors, beaucoup de choses très intéressantes viennent d'être dites. Tout d'abord, je m'associe à M. Haïd. On ne combat pas le feu par le feu, l'horreur par l'horreur. Et il faut absolument arrêter à Gaza. Là, c'est un drame épouvantable. Et on entend que l'offensive n'a même pas commencé. Il y a des milliers de morts. C'est quand même pas possible. Il faut vraiment que les modérés de chaque camp fassent entendre leur voix et qu'on arrive à une solution de paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour répondre à votre question, cher Adil.
Oui.
On négocie pas avec ses amis, on négocie avec ses adversaires. Donc, faut bien un interlocuteur en face. Alors, tout le monde dit, ben hors de question de négocier avec le Hamas après ce qu'ils ont fait. Ça peut s'entendre parce qu'effectivement, quand même, je suis un peu révolté par effectivement ce qui s'est produit le 7, mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui aussi. Et donc, avec qui négocier alors ? Parce que si on refuse de négocier avec l'adversaire direct, mais aussi avec ses soutiens ou tout du moins les gens dont ils ont l'oreille, eh ben on négocie plus avec personne en fait en réalité. Donc le Qatar, on peut peut-être lui reprocher des choses, mais en l'occurrence, il a l'immense avantage d'avoir une voix qui est écoutée par le Hamas. Ils sont effectivement bailleurs de fonds, hein, c'est même pas.
Tout à fait. Ce
que vous disiez, qui finance ou pas, il finance. Hein, le fait est. Avec la complicité de l'État d'Israël qui depuis très longtemps favorise le Hamas pour diviser les Palestiniens, c'est exact également. Notamment Netanyahou, il y a quelques mois, il avait déclaré « Quiconque est opposé à l'idée d'un État palestinien doit autoriser ce transfert de fonds, il s'agissait de 5 millions de dollars, à destination du Hamas, en partance du Qatar. » Donc, je pense que le Qatar, dans cette affaire, a au moins l'immense avantage d'avoir une position d'équilibre, et que si on commence par lui cracher dessus, rien n'avancera. Or, il y a des gens qui meurent tous les jours, il faut quand même garder ça à l'esprit. Les positions de principe, c'est bien joli, mais ce qu'il faut, c'est arrêter les armes.
Vous avez parlé justement de la situation sur la bande de Gaza, situation catastrophique.
Catastrophique.
Y compris humanitaire.
Mais épouvantable.
Ouais. Mais on doit trouver une solution absolument. Là, je parle, c'est une histoire d'heure. Là, parce que
c'est un peu comme si nous, après le Bataclan, on était tous marqués au fer rouge. On avait dit, alors ils viennent tous de Seine-Saint-Denis, donc on va boucler la Seine-Saint-Denis. On va couper le courant, l'électricité.
On va raser la Seine-Saint-Denis.
Et on va bombarder la Seine-Saint-Denis. Ça n'a aucun sens, on ne punit pas des populations civiles pour l'acte de les exactions de terroristes. Donc il faut absolument que ça s'arrête parce que tout le monde parle encore des horreurs qui sont produites en Israël et c'était des horreurs, il n'y a pas à discuter de ça. Hein. Le 7, mais tous les jours, il y a des gens, des femmes, des enfants, des vieillards qui meurent sous les bombes israéliennes et on en parle très peu.
Ce que tu dis, tu as totalement raison. En plus, c'est contre-productif. Parce qu'on sait très bien que quand il y a la guerre, automatiquement il y a la paix. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on trouve, comme tu as dit, les gens en face pour faire la paix. Et on ne fait pas la paix avec son ami, on fait la paix avec son ennemi.
Eh ben oui.
Même s'il est épouvantable, on doit faire la paix, en tout cas on doit y travailler, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui ce qu'on voit, mais vous croyez, il croit vraiment que ça va s'arrêter là, malheureusement. Le conflit va s'agrandir malheureusement. On voit que les populations arabes, je ne parle pas les gouvernements, les populations arabes, mais même au-delà, qui commencent à bouger. Ça veut dire que on pense qu'il risque d'avoir un embrasement et même un allié. On parle même pas des gouvernements arabes, Adil. On parle d'un pays qui s'appelle la Turquie, qui est dans l'OTAN et qui dit que le Hamas, c'est un mouvement
de résistance.
Et là, j'ai entendu personne dire s'insurger à la Turquie, etc., etc. Non, ils peuvent rien dire parce qu'ils ont besoin de la Turquie, parce que la Turquie est devenue un pays tellement important pour l'OTAN et pour cette région-là qui font que ils disent rien. C'est pour ça que aujourd'hui.
Et puis la Turquie, faut le dire aussi, c'est à la lisière aussi du Moyen-Orient, entre le Moyen-Orient et l'Europe. Donc
c'est vrai,
là où on est aux portes entre les deux.
Son
influence dépasse.
C'est pour ça que
ça l'a toujours été, je pense.
Et je pense que je pense que les hommes et les femmes politiques en France, je pense qu'ils font pas leur travail.
Mustapha Kemal à l'époque.
Et je pense qu'ils font pas leur travail. Parce que là, comme tu disais, là c'est pas un ou deux morts là. Là c'est des milliers de morts. C'est des milliers de blessés. C'est des gens qui vont crever. C'est des maladies, etc. Et là on devrait tous dire c'est le feu.
Je dois le dire. Je voudrais m'adresser parce que vous êtes journaliste aussi, Jérôme Bonnet. Il y a un confrère qui a perdu toute une famille, sa femme.
18 journalistes
correspondants. Mais attendez, je parle du journaliste correspondant de la chaîne Al Jazeera. J'ai regardé un peu les images. On m'a envoyé justement. C'est un confrère qui m'a envoyé donc ce témoignage de ce journaliste qui est correspondant donc pour la chaîne Al Jazeera, qui parlait de son enfant. Il l'avait dans la main. C'était terrible comme image. Évidemment, c'est jamais simple pour un père de famille ni pour une mère. Il a perdu sa femme, ses enfants. Et donc il était contraint aujourd'hui de. Il a dit qu'il ira jusqu'au bout pour se battre en tant que journaliste et c'était assez émouvant. On va essayer de retrouver. Je ne sais pas si on a encore Solal peut essayer de retrouver cette image, ce sonore de comment dirais-je de ce journaliste correspondant de Al Jazeera. Bonjour, bonsoir. Gamal Abina, porte-parole du MDC, vous êtes arrivé avec léger retard, vous êtes toujours pris par le truc. Alors, on posait la question justement, peut-on taper à la fois sur le Qatar et le Qatar lui-même qui négocie avec le Hamas pour les otages retenus?
On n'a pas tapé sur le Qatar, c'est intolérable de taper sur un pays arabe. Aujourd'hui, ce qui ont de taper, c'est l'extrême droite israélienne. C'est elle qui a voulu cette guerre, c'est elle qui l'a organisée, planifiée, avec des provocations. Je rappelle que le nom de cette attaque, qui je crois déluge l'Aqsa, c'est la conséquence d'une agression qui s'est faite sur la mosquée et qui a vraiment énervé beaucoup le monde. Mais il faut se rappeler quand même, parce que c'est bien beau de parler de massacre. D'abord, Israël n'est pas son premier massacre. On ne va pas parler de Deir Yassine et des centaines de villages qui ont été rasés. Mais de rappeler quand même que ça fait à peu près 75 ans maintenant, pour être très précis, même pas à peu près, précisément 75 ans, qu'ils ont créé un État sur la terre de Palestine. Il faut le rappeler quand même que les Palestiniens sont chez eux, ce qu'on a tendance à oublier. C'est quand même assez amusant de voir des gens qui sont chez eux se faire tuer chez eux.
On les a un peu aidés quand même. Ils n'ont pas pris tout seul.
Oui, ils sont venus parce qu'on les a...
La
responsabilité est très lourde au niveau européen parce qu'ils ont massacré un peuple et ils les ont poussés à partir. Voilà ce qui s'est passé. Bon. Donc ça les a arrangés. Mais certes, il y a une chose importante de rappeler, c'est que tous les jours, depuis 75 ans, il y a un à deux Palestiniens qui sont assassinés. C'est ça qu'il faut rappeler. Hommes, femmes, enfants. Ils ne font pas de distinction. Ça a duré 75 ans. Ces massacres-là, on n'en parlait pas. De rappeler que Israël, c'est quand même le Liban, 100 000 morts. Il faut se rappeler quand même qu'Ariel Sharon, quand il va au Liban en 82, il y a 100 000 morts. Donc il faut quand même rappeler que la victime aujourd'hui qui a perdu des civils parce que ce gouvernement d'extrême droite mettait le paquet pour pousser à la guerre, eh bien, ils ont parlé beaucoup de guerre. Hein. C'était pas d'hier. On entendait les discours des hommes politiques israéliens qui parlaient.
D'extrême droite.
Absolument. Et qui disaient les Arabes sont des animaux. À partir du moment où vous dites que les Arabes sont des animaux.
Des suprémacistes qui sont racistes. Il n'y a aucun doute.
C'est les racialistes. Eh bien, quand on dit les Arabes sont des animaux, l'animal n'a pas le droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit à la guerre. Il n'y a pas de droit tout court. On peut en faire ce qu'on veut. Donc maintenant, il faut se rappeler quand même. J'aime bien qu'il y ait l'émotion au départ parce qu'un civil qui meurt, c'est un civil de trop. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 Palestiniens qui ont été assassinés parce qu'on ne parle pas des décombres. Il y en a encore sous les décombres. On voit qu'ils assassinent des femmes, des enfants. On voit qu'ils assassinent des victimes à tous les étages. Et en plus, qu'ils reconnaissent même pas leurs crimes. L'hôpital, par exemple, eh ben, le missile tiré sur l'hôpital, on sait d'où il vient maintenant.
D'où il vient?
Il vient d'Israël, simplement. Ça a été dit par les Américains. Dommage pour eux.
On peut parler de catastrophe humanitaire,
je donne la source New York Times.
C'est une catastrophe. Il y a une grosse inquiétude à ce niveau-là. Attendez, on va en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jérôme?
Non, mais là, c'est pas loin. En fait, j'ai lu ce papier du New York Times qui est vachement bien, effectivement. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que missile qui a été montré comme étant responsable de la frappe
ne pouvait pas être
venait d'Israël en réalité, mais qui s'est explosé en l'air et qu'en fait c'est pas lui qui a causé ces dégâts là. Et donc en fait ce que ça dit, et c'est intéressant, c'est que les services secrets américains et israéliens ont menti en montrant les images de ce missile en disant voilà le missile qui a frappé et il vient du djihad islamique alors qu'en fait il venait d'Israël et c'est pas celui qui a tapé.
On revient dans une poignée de minutes. 01 53 48 48 3000, chers amis auditeurs et auditrices. Le standard est ouvert, vous pouvez nous appeler. Allez-y, 01 53 48 3000. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après la pause.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h21, si vous venez de nous retrouver avec Farid Aï, l'élu local de Pierrefitte, mais député suppléant. Le porte-parole du MDC, c'est Gamal Abinay. Et enfin, le journaliste Jérôme Bonnet. Je voudrais, avant d'accueillir Nassera qui nous appelle du 78 et tous les autres, je voudrais vous entendre au standard. C'est très très important. Vous savez ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi je livre rarement mon sentiment parce que je veux garder cette neutralité. Ouais. Mais autant on peut condamner évidemment de part et d'autre tout ce qui se déroule. Mais en ce moment, sur la ville de Gaza, sur la bande de Gaza, la situation, franchement, elle devient extrêmement préoccupante. Moi, je parlerais plutôt de catastrophe humanitaire, comme le disent certains médias, et que, oui, on doit s'inquiéter. Oui, on doit tous être préoccupés par ce qui se passe. Parce que là, effectivement, je crains le pire. Je vous le dis clairement, je pèse les mots. Je crains le pire. Je voudrais qu'on diffuse simplement cet extrait d'un journaliste d'Al Jazeera qui apprend la mort de sa femme et de ses enfants en direct, chers amis. Et la chaîne qatarienne, qui s'appelle Al Jazeera, elle a décidé de montrer ces images pour soutenir son correspondant qui pleure sa femme et ses enfants, tués par donc cette fameuse frappe israélienne. En tout cas, elle est à vérifier, vous le savez, à l'hôpital d'Al Al-Bala, dans le sud de la bande de Gaza. Je voudrais, parce que le Parisien a décidé de diffuser cet extrait, et je remercie d'avance le Parisien, puisqu'on va utiliser cet extrait pour l'écouter. Écoutez justement... le journaliste et ce qui s'est déroulé. Écoutez. Ils se sont donc pris à nos enfants. Ce n'est pas grave. Ce journaliste. Il dit que nous reviendrons à Dieu. Il parle de sa fille, il parle de son fils, oui, il parle de sa femme. Et les bombardements ont lieu effectivement... en plein direct quasiment, hein, le journaliste Al Jazeera. Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, donc, la situation, je le disais, on craint le pire. Hein. Jérôme Bonnet.
Déjà que c'est malheureusement pas un cas isolé, que c'est le 18e journaliste tué à Gaza. C'est quand même incroyable. Ça se passerait n'importe où ailleurs dans le monde. Ça ferait un scandale mondial. Que c'est terrible. C'est terrible de s'attaquer à la presse. Ça révèle finalement une forme de faiblesse quand on en vient à s'attaquer aux messagers. Mais après, je veux pas non plus. Moi, je suis journaliste moi-même, donc je veux pas avoir l'air de dire que les journalistes sont des êtres sacrés et qui, dont les vies compteraient plus que celles des milliers de Palestiniens qui ont été tués.
Farid Aïd, ensuite Gamal Abinay, je vais accueillir Nassera.
Non, moi, beaucoup d'appels. Bien évidemment, je suis d'accord. Un journaliste, il est là pour faire son travail et on doit respecter ce travail-là parce qu'il est là aussi pour donner aussi quoi dire. Mais en même temps, quand je vois que certains disent une catastrophe imminente.
Oui, c'est
humanitaire
incroyable.
Imminente. Mais elle est déjà là, la catastrophe.
Ah, la catastrophe, on est en plein. C'est pour ça que je me suis permis de dire.
Adil, t'as raison.
Ça, c'est incroyable. Elle est là, ça y est.
Quand on voit que les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils n'ont pas de carburant, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, que les quelques boulangers qui restent encore, parce qu'ils sont faits aussi.
Vous avez raison.
On leur a tiré dessus, qu'ils ne peuvent pas faire le pain parce qu'ils n'ont pas d'eau. Le pain. On ne parle pas d'autre chose.
Je ne veux pas décrire les vidéos que je reçois, justement, de la bande de Gaza, parce que j'ai des. Comme toi, Jérôme, des journalistes avec lesquels on travaille qui m'envoient des images, elles sont horribles à regarder, c'est insupportable.
Faut pas
les regarder,
je
les regarde plus.
Bien sûr. Et c'est pour ça que juste termine Adil, c'est pour ça qu'à un moment donné certains aiment bien les mots. Là, les mots ont un sens. Certains disaient oui, mais il faut dire les bons mots. Etc. Eh ben là, on dit les bons mots. C'est une catastrophe humanitaire sans précédent et qu'il faut tout de suite cesser le feu et il faut que tout de suite le gouvernement Macron dise quelque chose.
Je trouve qu'Emmanuel Macron, durant son déplacement au Proche-Orient, notamment sa dernière déclaration après le président Sissi, après la rencontre, plutôt il a laissé un message d'espoir. Mais bon, on en reparlera, on va voir.
Disons qu'il a essayé de rectifier le tir.
Je dirais qu'il a délivré, mais on en parlera juste après. Non, moi je pense qu'il ne faut pas parler de catastrophe humanitaire, parce qu'une catastrophe c'est involontaire en général, c'est la nature, ce genre de choses. Là on parle de crime de guerre, il y a une intention, on assiège une population, c'est un crime de guerre moyenâgeux. Comment peut-on couper
le fait
l'eau
que la qualification c'est celle-là, hein, crime de guerre.
Crime de guerre, c'est pour ça qu'il faut parler de crime de guerre. Civile. Je suis bien que ça soit gentil, mais l'extrême droite, moi, elle m'a toujours fait vomir d'où qu'elle soit. Et cette extrême droite qui assassine à plein régime et qui a réussi à s'allier l'Occident, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que l'extrême droite, maintenant, c'est normal. Eh bien, cette extrême droite-là s'autorise à installer un siège de Moyen-Âge. Je rappelle que même au siècle dernier, j'avais dit la dernière fois, quand on a fait le blocus contre l'Allemagne et l'Autriche pour les forcer à signer les traités de Versailles et autres, c'était quand même pas l'interdiction d'avoir de l'eau. Ils ont interdit la nourriture, ils ont fait mourir de faim. Là, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le gaz, c'est tout.
Ouais, y en a un qui m'a beaucoup plu sur la situation géopolitique, c'est Alain Bauer. Je vais essayer de l'inviter, il faut que je l'invite ici, il faut qu'il vienne, parce que je trouve qu'il a été bon. Et puis un autre aussi, sur un autre registre, c'est Pascal Boniface, mais il sera avec nous tout à l'heure. La Serra du 78, Jérôme.
Oui, je voulais juste revenir sur ce que disait M. Haïd, les mots ont un sens. Il y a énormément de choses, il y a un truc qu'on entend tout le temps, aujourd'hui, qui m'exaspère totalement, qui est de dire Israël a le droit de se défendre.
Une blague, ça.
Mais évidemment qu'Israël a le droit de se défendre, le Luxembourg a le droit de se défendre, tout le monde a le droit de se défendre.
Vous avez utilisé
la question
un mot tout
est de savoir se défendre. Comment ?
Vous avez parlé de punition.
Oui,
punition collective, c'est ça.
Vous avez dit
que ça s'exerce auprès de gens qui, à 99,9%, sont innocents.
Voilà, exactement.
C'est interdit sur le droit international.
Il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Nassera du 78, bonsoir Nassera.
Bonsoir,
vous nous appelez de quelle ville, s'il vous plaît ? Parlez bien devant votre téléphone, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est pas du tout audible. Vous nous appelez de quelle ville, Nassera ? Alors, collez bien votre, parce que sinon je serais navré de ne pas vous diffuser à l'antenne en direct, parce que je vous entends vraiment de très très loin. Faites un effort, s'il vous plaît, Nassera.
Oui.
Allez-y.
Et là, vous m'entendez mieux ?
Non, malheureusement, non. Non, faut faire un effort. Les amis auditeurs, le problème, c'est que la difficulté, il faut bien être collé devant son combiné, portable ou pas, mais parce que sinon, le message n'est pas diffusé à l'antenne. En l'occurrence, là, Nassera, on vous entendait de très, très, très loin, et c'est compliqué pour nous. Mohamed, vous nous appelez de Paris. Bonjour, Mohamed.
Oui, bonjour tout le monde.
Voilà, bonsoir. Le son c'est mieux, voilà, il est limpide.
Bonjour
le son.
Mohamed.
Limpide,
bonjour.
On vous bonsoir. Écoute. Allons-y.
Oui, bonsoir, je voulais transmettre toutes mes condoléances au journaliste qui a appris la mort de sa famille en direct.
C'est horrible, effectivement. Oui.
Donc pas que, je vais transmettre toutes mes condoléances à toutes ces familles, toutes ces personnes civiles qui sont en train de mourir et de souffrir en Palestine, notamment à la bande de Gaza. C'est horrible ce qui se passe, c'est vrai que c'est horrible. C'est horrible, non seulement c'est horrible, et aussi c'est horrible que l'Occident reste inerte à ces attaques, à cette vengeance, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est de la vengeance, c'est de la punition. Ce n'est plus de la légitime défense. J'étais passé une fois à l'antenne en ayant un exemple avec un avocat qui était chez vous, sur votre plateau, où j'avais dit qu'imaginant qu'il met une gifle et qu'il m'envoie à l'hôpital dans le coma, il n'y a pas de proportionnalité à sa défense. Et Israël, il n'y a pas de proportionnalité à sa défense. C'est terrible. Terrible. Donc voilà, je voulais intervenir encore pour donner encore tout mon soutien à ce peuple palestinien, le peuple le plus noble du monde pour moi. Le peuple le plus courageux du monde.
Merci pour ce témoignage, Mohamed. Merci.
Voilà, voilà.
Jérôme Bonnet, vous voulez réagir à vos propos. Oui. Merci Jérôme, je vous libère. Mohamed, je vous libère.
Effectivement, abonder dans le sens de Mohamed, mais signaler un élément en plus, c'est qu'en plus, c'est contre-productif. Gaza, âge médian, 18 ans, 40% de la population a moins de 14 ans. C'est donc ça. 13 ans et moins. Ça veut dire 1 million de personnes, en fait. Un million d'enfants qui vivent sous les bombes. Ils vont devenir quoi en grandissant, ces enfants? C'est complètement contre-productif.
Pas seulement, ça veut dire haine.
Pour chaque membre du Hamas qu'ils arriveront à tuer au milieu de 200 civils, ils vont faire 200 combattants demain.
Question que je vous pose, je fais un tour de table. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a-t-il rectifié le tir, oui ou non ? On fait un tour de table. Gamal Abina.
Il a rectifié le tir d'une catastrophique prise de parole. Il a dit à Israël, à titre d'extrême droite, je le rappelle à nouveau, il a été lui dire, vous avez le droit de vous défendre. C'est pas la défense, faut remettre un peu les pendules à l'heure. La défense, c'est face à des combattants, pas face à des civils. Et ça me rappelle, moi, dans les années 30, encore une fois, 40 plutôt, quand en Bohême-Moravie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, ce pays, les Allemands qui squattaient là-bas ont vu leur leader, qui s'appelait Rainer Heydrich, tué. Qu'est-ce qui s'est passé pour trouver ceux qui ont tué Rainer Heydrich, ils ont détruit un village entier. Punition collective. Là, c'est ce qui se passe. Ils font la même chose. Ils tuent des civils. C'est très lâche, hein. C'est pas des hommes, hein. Mais dès qu'ils voient un combattant, ça cavale. Il y a un accrochage hier, ils ont cavalé. Je veux dire simplement, c'est que quand on est un état digne, et ce ne sont pas des gens dignes, hein. Moi, quand quelqu'un me traite d'animal, c'est bon, c'est réglé la dignité. Eh bien, on se comporte comme un homme digne. On ne tue pas des civils. C'est très lâche. Et la conséquence plus tard, durable, c'est qu'il y aura une volonté de se venger. Parce que la vengeance de cet incapable qui est incapable de protéger sa population, elle va arriver d'abord elle va arriver par sa population, ils vont lui régler son compte, et ensuite il y aura une vengeance a posteriori. Donc simplement pour vous dire que quand des enfants vivent sous les bombes, et bien quand ils grandissent comme en Afghanistan, ils deviennent un peu dingos, et c'est normal.
Adil, moi je trouve qu'il n'a rien rectifié du tout. Il n'a rien rectifié. On fait croire, les médias font croire qu'il a rectifié, qu'il a compris.
Je vais vous diffuser un extrait. Pourquoi? Je vous laisse parler, je vais retrouver l'extrait.
Tu peux retrouver l'extrait. Pour moi, il n'a rien rectifié. D'abord parce qu'il a été en terre d'Israël, et il a dit les choses unilatéralement, vous avez le droit de vous défendre.
Il a une faute politique.
Il a dit, point. Et en plus de ça, entre parenthèses, il a été avec certains députés, dont deux députés qui sont pro-israéliens, dont un qui ne veut pas d'un État palestinien. C'est une faute politique. C'est vraiment une faute politique.
Ce sera intéressant de ne pas le dire
son nom. Je ne veux pas dire son nom parce qu'il ne m'intéresse pas son nom. Mais je vous le dis, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il dit ça à Israël et après il va en Égypte parce qu'il a besoin
de se redorer le blason,
de se dire parce que la France a toujours eu une image différente des Américains, des Anglais, ils étaient toujours différents. Tout le monde se rappelle de la voix de Jacques Chirac, même de Dominique de Villepin, etc. Qui sont pas, c'est pas des gens que j'admire, mais en tout cas ils avaient sur ce volet-là
une stature.
Et ils avaient dit des choses très très claires. Et on voit que Macron va en Égypte. Va voir le président Mahmoud Abbas, président palestinien, en disant oui, l'humanitaire, oui, il faut qu'on regarde, oui, peut-être qu'il faudrait, deux États palestiniens. Je trouve, et j'en terminerai par là, c'est une fumisterie et c'est pas à la hauteur d'un président de la République français.
Bon, bah, c'est votre opinion et effectivement vous l'avez livré. Jérôme Bonnet.
Alors, je suis désolé pour l'équilibre de notre mission, Adil, parce que je ne vais pas me muer en défenseur d'Emmanuel Macron. Je trouve que ce voyage a été une catastrophe également. Tout d'abord parce que il a essayé de tenir des propos équilibrés, mais il ne les a pas tenus avec le même interlocuteur. C'est-à-dire qu'il a fait ce que fait toujours Macron, en fait. Il dit à son interlocuteur ce qu'il a envie d'entendre. Donc, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué sa prise de parole. C'est Netanyahou qui lui donne la parole et il lui dit « Merci Bibi ».
C'est quand même
le chef d'un gouvernement d'extrême droite. Moi, il me semblait qu'Emmanuel Macron luttait contre l'extrême droite, si je me souviens de la dernière campagne présidentielle. Il me semble que c'était sa vocation. Et là, je l'entends dire « Merci Bibi ». Bon, passons, parce que c'est pas très important en soi. Derrière, il fait cette annonce complètement ahurissante, sortie de nulle part, la coalition anti-Damas. Personne ne comprend rien à ça. On entend d'ailleurs derrière que et le Quai d'Orsay, même l'Élysée est obligé de rétro-pédaler. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû inventer ça dans l'avion.
Il a tout mélangé.
C'est-à-dire
que
c'était génial.
Il n'y a pas de conseiller.
Il n'en parlait à personne.
Il
fait cavalier seul. Il lance son idée qui n'a aucun sens et que personne ne comprend. Et ensuite, effectivement, il a essayé de rectifier le tir. Faut quand même être juste. C'est une bonne chose qu'on envoie un navire hôpital au large de Gaza. Ça, on va en avoir besoin. Et on peut saluer ce geste-là. Mais en dehors de ça, sur le plan diplomatique.
Juste pour ajouter. Malheureusement,
et j'ai Kamal. On a retrouvé
avec Emmanuel Macron, avec ce président, on n'a jamais été aussi mal sur le volet international. S'est mis à dos tout le monde. Tout le monde. D'habitude, on avait.
Là, vous parlez de diplomatie française.
La diplomatie française.
Ça tombe bien, c'est le billet d'humeur de Pascal Boniface.
Je voudrais rajouter une chose quand même importante.
On avait une voix différente de tout le monde, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. On avait une voix. Moi, j'ai trouvé ça forte des présidents de la République successifs, même s'ils sont pas dans mon camp. Certains. Mais au moins, il y avait quelque chose.
Mais
là, mais là c'est le néant.
J'ai collecté les petits sonores il y a pas longtemps d'anciens présidents. De Gaulle 67, Mitterrand 82 et Chirac.
Pompidou aussi pareil.
Et ça fait mal à écouter hein, parce que quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, on est tombé aujourd'hui, il y a vraiment en termes de hauteur de vue un gouffre.
Moi il y a un truc qui me révulse, qui me choque et qui me dégoûte, c'est qu'aujourd'hui on parle pas de paix, évidemment tout le monde laisse les barbares massacrer. On parle d'aide humanitaire, on parle de médicaments, c'est qu'on va soigner les gens qu'on va tuer, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est que ces Gazaouis n'ont aucune chance de sortie de territoire, ils sont considérés comme du bétail aujourd'hui et on envoie des pansements. Je pense que si la France existait réellement, c'est pas les pansements qu'il faut envoyer. C'est un arrêt, un cessez-le-feu imposé.
Avant de marquer juste la pause, je voudrais accueillir. Je vous ai retrouvé Nasser Az du 78 avant de marquer la pause. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, c'est mieux.
Bonsoir. C'est mieux. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Remarquer. Oh, bah oui, parce que franchement, c'est en direct, donc il faut faire un effort aussi chacun. On se retrouve
Que j'étais en voiture.
Voilà. On fait. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après la pause. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h41 avec Jérôme Bonnet, avec Farid Aïd, avec Gamal Abina, vous aussi au 01-53-48-3000. Jingle.
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
On a retrouvé Nassera qui nous appelle de Triel. On vous écoute, Nassera. C'est parti.
Bien, ben moi je voulais dire que d'abord j'étais d'accord avec l'analyse de Monsieur Gamal Abina. Je ne vais pas tout reprendre, mais effectivement il a bien rappelé que ça fait 75 ans que Israël tape sur les civils et tue des civils et emprisonne des enfants. La deuxième chose, c'est que le Hamas n'a pas été déclaré organisation terroriste par l'ONU. Il n'y en a que deux, c'est Al-Qaïda et Daesh. Et je trouve aussi très grave que Monsieur Netanyahou se permette de dire en présence de Macron que les banlieues françaises c'est égal au Hamas.
Oui, c'est vrai, on a oublié ça. L'oublié, c'est
grave. Hein, ouais.
Voilà, je trouve également
c'est vrai qu'il a comparé
courageux.
Les comparaisons.
Non, il n'a pas comparé, il a dit on était des émanations du Hamas. Ouais. C'est voilà. Beaucoup plus fasciste.
Je trouve également très courageuse la position de M. Guterres qui a eu la force de dire...
Secrétaire général de l'ONU, il faut préciser.
Secrétaire général de l'ONU, de dire que c'était Israël l'agresseur et qui avait voulu cette guerre. Je trouve également désagréable que dans les discours des uns et des autres, beaucoup minimisent avec les mots et les comparaisons ce que commet Israël. Notamment, par exemple, on parle de prison à ciel ouvert. Non, je suis désolée, c'est pas une prison à ciel ouvert, parce qu'une prison, il y a un jugement. On est coupable, on a un jugement, on en sort à un moment donné, alors que là, c'est purement et simplement des camps de concentration.
Tout à fait.
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on envoie un hôpital flottant, mais si on avait arrêté ce massacre, les USA auraient très bien pu l'arrêter. On n'aurait pas eu besoin d'envoyer et de se féliciter d'envoyer de l'aide médicale ou de l'aide humanitaire. Et la dernière chose. Donc, moi, je pense et je suis convaincue que les USA utilisent Israël par proxy parce qu'ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre parce qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie. Et Israël veut réaliser son rêve de grand Israël qui va couvrir la Jordanie, le Liban, la Syrie. Enfin, voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Parce qu'elle parlait des États-Unis.
Ah, les États-Unis,
États-Unis veulent la guerre. J'ai pas bien compris.
Veulent la guerre avec qui?
Les États-Unis, ils veulent la guerre avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le monde multipolaire et ils veulent absolument réaffirmer leur impérialisme et soutenir Israël pour détruire le Moyen-Orient. Et notamment, n'oublions pas que en Palestine, il y a un gisement de gaz
qui ne peut pas
être exploité par les Palestiniens à cause de ça.
Merci pour cette analyse, Nassera.
Il y a de l'argent côté américain parce que c'est les Américains qui vendent des armes. Et il y a de l'argent côté Gazaoui parce qu'il y a du gaz et des grosses quantités.
Je continuerai d'accueillir nos auditeurs qui sont très nombreux comme chaque soir à intervenir. Messieurs, tout de suite, question. On va passer au sujet suivant.
8 Français sur 10
pensent que le conflit israélo Palestine représente un risque de tension en France. Alors, ma question est très simple. Ce qui se passe en Israël, est-ce que il peut y avoir une question intérieure en France, oui ou non? Est-ce qu'il y a un risque de tension chez nous dans l'Hexagone, Farid Aïd?
Ouais, d'abord,
vous êtes un élu.
Ouais, bien sûr.
Vous avez la température.
Bien sûr, Adil, mais deux secondes juste pour dire que si vraiment on veut la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il faut deux États. Et il y a aussi des femmes. Parce qu'on nous disait, et ça part en boucle en disant qu'il n'y a pas de chef d'État qui pourrait reprendre l'État palestinien. Moi, je vous en donne un. Il s'appelle Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, le député qui est depuis des années en prison, sans procès,
et
sans rien du tout.
Pourquoi il y est? Parce que. Dans le camp palestinien, il représentait l'opposition aux intégristes. Oui. C'est-à-dire qu'Israël, il y en a plusieurs autres comme ça, mais Marwan Barghouti, c'est le plus charismatique. Le Mandela palestinien, j'entends parfois. Israël l'a enfermé pour que le Hamas puisse se déployer. Il y a quand même eu un jeu cynique. D'Israël avec le Hamas, comme Frankenstein avec sa créature qui revient.
Mais pourquoi je dis ça, Adil? Parce qu'à un moment donné, à la fête de l'humanité, il y avait la femme de Marwan Barghouti. Mmh. Elle nous disait, mais d'autres nous disent aussi, allez en prison en Israël. Vous allez voir comment vous allez ressortir après.
Oui, massacre les gens.
Bah
oui,
les massacres. Alors, sur les tensions, on sait très bien que, et depuis longtemps, qu'il va y avoir des tensions. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir s'exprimer. D'abord, de dire et de faire ce que fait Darmanin, c'est intolérable.
Absolument.
Et ce qu'il a fait encore là, le préfet Vugnez, en interdisant la manifestation ce week-end pour la Palestine. Alors toujours ils trouvent des prétextes. Oui, c'est une association, etc. Oui, ils vont dire ça, etc. etc. Pas vrai, Adil. C'est pas vrai. Il faut que tout le monde sache que c'est un droit constitutionnel. On a droit de manifester en France. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je pense que le droit doit permettre à chacune et à chacun de s'exprimer. Alors, mais pour cela, il faut que chacun puisse s'exprimer. Et aussi, bien sûr, ceux-là qui sont pour un État palestinien.
Gamal.
Alors,
Gamal
pour ceux qui ont l'outrecuidance d'expliquer rapidement qu'on apporte le conflit ici, ce qui est une blague puisqu'il est né ici, je rappelle que c'est les Français et les Anglais qui ont créé Israël. Pour ceux qui disent ça, bizarrement, on ne les entend pas dire que le conflit est exporté d'Israël, en l'occurrence, de la part de Netanyahou, qui l'a exporté. Il a dit que tous les gens de banlieue sont les gens du Hamas. Donc, quand ce fasciste, je répète à deux fois, quand ce fasciste, et trois fois, quand ce fasciste dit que nous sommes tous du Hamas, c'est que ce fasciste croit que les Arabes sont les intégristes.
Jérôme Bonnet.
C'est une question vraiment très importante. Moi, je pense que les communautés musulmanes et juives françaises sont plus intelligentes que
tout
cela.
À fait.
Et qu'il n'y aura pas de tensions extrêmes. C'est très important que chacun ait à l'esprit, que tout le monde se souvienne que nous sommes tous français. Que ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe maintenant à Gaza n'est la faute ni des juifs français ni des musulmans français ni de qui que ce soit de français d'ailleurs.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord.
Conserver cette unité. Moi, je les crois plus intelligents que ça.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Et mais effectivement, comme disait Monsieur Haïd, c'est pas en interdisant certaines manifs et en autorisant d'autres et en donnant le sentiment qu'on a choisi son camp qu'on apaise la situation. Mais ne comptons pas sur notre classe politique.
C'est parti.
Ne comptons pas sur les médias. Montrons nous l'exemple avec solidarité.
Tout à fait. Bien.
C'est l'heure du Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et dans les informés, comme chaque jeudi, vous le savez, c'est avec le géopolitologue Pascal Boniface. Bonsoir Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Plaisir de vous retrouver, vous le savez, et je vous lance dans votre billet d'humeur. Vous êtes le patron fondateur de l'Institut Leris. On va parler avec vous de diplomatie française concernant ce conflit israélo-palestinien. Très intéressant.
Oui, on a beaucoup dit, est-ce que la France a ou non changé d'attitude par rapport au conflit israélo-palestinien? Il faut peut-être prendre un peu de recul historique et voir quelle était la situation. Sous la 4e République, la France et Israël sont des alliés stratégiques. Ils vont même intervenir ensemble pour réoccuper le canal de Suez qui a été nationalisé par Nasser, parce qu'en fait, l'ennemi d'Israël et de la France, c'est le nationalisme arabe. Ensuite, sous la 5e République, de Gaulle change de politique, et notamment avec la guerre des Six Jours. Il avait dit aux Israéliens que si vous attaquez, je vous défends, mais si vous commencez la guerre, je ne serai pas d'accord. Et effectivement, Israël fait la guerre des Six Jours, détruit l'armée égyptienne, détruit l'armée syrienne, et de Gaulle proclame un embargo sur les armes à destination d'Israël et rompt l'alliance qui existait, et c'est ce qu'on appelle la politique arabe de la France. Et la France, de Gaulle, puis ensuite Mitterrand, puis ensuite Chirac, ont été les porte-parole du camp palestinien, ont été le seul pays occidental qui réclamait des droits pour les Palestiniens. Et ensuite, ça a un peu bougé. On dit souvent que c'est Sarkozy qui a bougé, Sarkozy, le roi d'Israël. En fait, ça a bougé à partir de 2005. Chirac est affaibli. Il a peur des campagnes sur l'antisémitisme en France, qui sont massives aux États-Unis, massives en Israël. Et donc, il se rapproche des États-Unis, après la guerre d'Irak, d'Israël aussi. Et la France décide de distinguer les relations bilatérales avec Israël de l'attitude sur le conflit israélo-palestinien. Et au fur et à mesure, finalement, la France va non pas abandonner sa position, mais la rendre moins flamboyante, moins vibrionnaire. Et elle va plus ou moins, finalement, pas rentrer dans le rang, mais être moins active sur le dossier. François Hollande avait promis dans la campagne électorale qu'il reconnaîtrait la Palestine. Il ne l'a pas fait. Macron s'était réclamé du gaullo-mitterrandisme dans la campagne. Et finalement, il maintient un peu cette politique où, verbalement, on est toujours pour les deux États, mais on sait que on ne va pas faire grand-chose pour faire pression sur Israël. Et donc, on en est là. La France, officiellement, n'a pas changé de politique, mais elle est nettement moins active dans le passé. Et moi, ce que je constate, c'est que la France était le pays occidental le plus populaire dans les pays arabes et musulmans auparavant, et maintenant, elle l'est nettement moins.
Vous avez bien raison, et bravo pour ce billet d'humeur et pour cette analyse. Bravo, mon cher Pascal Boniface. Je dis avec autant de plaisir.
analyste d'excellente qualité.
Merci. Comment, Jérôme Bonnet ?
Je dis, Pascal Boniface est un analyste d'excellente qualité. Je, oui, voilà. J'abondais, voilà. En fait.
Voilà, vous êtes d'accord. Voilà. Les débatteurs, vous, voilà, vous avez entendu Pascal Boniface. Hein, donc je
oui, merci, dire. Merci à vous, Jérôme.
J'ai pas rien à dire. Allez, au plaisir, mon cher Pascal Boniface, le patron de fondateur de l'ERIS. Messieurs, un petit tour de table, finalement. Je vais finir, évidemment, éclore cette émission avec cette question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qu'on peut dire, le mot de la fin, chacun ?
Je vais juste redire à tous mes amis, tous mes compatriotes français, souvenons-nous, n'attendons rien de la classe politique qui est quand même pas terrible, n'attendons rien des médias et montrons, nous, l'exemple en restant solidaires et unis.
Gamma Labina, c'est vrai, vous avez raison.
Nous serons tous à la manifestation de samedi et je tiens à rendre hommage aux manifestants qui, contrairement à la propagande qui a été organisée, se sont tenus de façon exceptionnellement bien, ils sont très bien tenus et surtout il n'y a pas eu depuis très longtemps en manifestation, ça n'est pas arrivé, pas eu de dérapage, pas eu de casse, pas eu de problème, rien de rien.
Farid Haït.
Moi je dis qu'à un moment donné, le politique c'est aussi pour moi le courage. Et là, le courage, c'est pas de parler, c'est de faire, c'est de créer des conditions pour qu'il y ait réellement deux États en paix, un État palestinien côte à côte avec un État israélien.
Et je sais que vous vous battez pour ça, je vous, en tant qu'élu.
Exactement.
L'élu de Pierre Fitt, il est avec nous, c'est l'élu local, mais il est également député suppléant. Merci Gamal Abina, le porte-parole
merci
de mouvement MDC. Merci à notre journaliste Jérôme Bonnet.
Merci. Merci
bravo
à vous.
Messieurs. À la réalisation, c'était Solal. Bilal Nenman, 20h, 21h, 21h, 23h, Vanessa. Quant à moi, demain, je reçois la ministre Sarah El Haïry qui sera avec nous demain pour une émission spéciale consacrée donc à l'écologie dans les quartiers populaires. Mais on parlera aussi des sujets du conflit israélo-palestinien et d'autres sujets qui ont retenu notre attention. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait ? On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.